Qu'est-ce qu'il y a? Tu chies déjà dans ton froc?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Connard!
Oui, c'est insupportable! C'est insupportable! Coupez-leur le micro! C'est insupportable! Monsieur Collard, Monsieur Collard!
Bienvenue sur Révolution et Liberté, le podcast. Il s'agit du 4e épisode. Nous parlions dans le dernier épisode de la dissuasion nucléaire. Au travers d'un simple passage, passé en douce, nous soulignons clairement que la menace d'une guerre nucléaire approchait tel un caméléon. Les spéculations vont bon train. Il y a une menace qui pèse, disons-le clairement, sur l'Union européenne. Les sanctions économiques commencent à peser en ce moment sur l'économie russe. Bruno Le Maire a peut-être utilisé le terme que la France était en guerre. Toutefois, il semble réaliste de souligner que ce n'est pas simplement la France, mais l'Union européenne. Cela aboutit clairement à dépasser la question de l'OTAN au travers d'une sortie afin de créer une Europe fédérale avec sa propre armée. La peur s'inscrit dans les pays de l'Union européenne face à la menace qui place une nouvelle guerre. Les Allemands, au travers de l'Alliance du Feu tricolore, ont lancé une modernisation de leur armée pour une somme de 100 milliards d'euros. Dans le même temps, ils rompent avec une doctrine en envoyant des armes à l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre contre l'ours russe. En ce qui concerne la question du gaz russe, tout comme du pétrole, il apparaît objectif de se tourner vers d'autres fournisseurs afin d'asphyxier clairement le pouvoir. En effet, les différentes sanctions ont généré une dévaluation de près de 30% du rouble. La banque centrale russe se doit d'injecter massivement de l'argent tout en remontant le taux directeur. Toutefois, les liquidités russes ne sont pas infinies. La question qui se pose clairement pour les pays dépendants du gaz russe est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas enclenché un processus pour se tourner vers d'autres distributeurs? Des pays comme l'Allemagne devront redémarrer des vieilles centrales nucléaires, voire les prolonger. Il semble nécessaire dès lors que l'Europe se doive d'être totalement autonome énergétiquement de la Russie. La transition sera douloureuse. Mais au moins les gazoducs pourront être fermés. D'autres ressources comme l'uranium devront trouver un autre fournisseur. Pendant ce temps-là, les marcheurs tentent par tous les moyens de trouver une autre solution. En effet, ils pensaient être arrivés à un processus de désescalade. Or, ils ont montré que Poutine n'a aucun compte à rendre. La guerre froide s'est transformée en guerre chaude. Dans ce sens, il convient de souligner que les affrontements indirects entre les puissances occidentales et la Russie aboutissent à un danger. Dans ce gloubi-gloubia, le livre de Lénine « Que faire ?» pose une véritable question de fond. Nous n'en avons pas vraiment la réponse ni même la solution. Entre-temps, le président ukrainien a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne, ce qui a été accepté. Dans ce sens, cela ne peut que créer une augmentation de la tension chez les pro-russes. En effet, l'Ukraine a fait le choix, au travers de la Révolution orange, puis de Maïdan, et maintenant d'aller vers une transition vers l'Union européenne. Ainsi, cette demande s'inscrivait comme l'aboutissement d'un processus d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis de la Russie. Toutefois, cela risque de monter un peu plus la tension chez les poutinistes. Les partisans d'un Frexit demandent d'en sortir. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs des personnes faisant la propagande du Kremlin. Dans ces conditions actuelles, les personnes comme Florian Philippot, François Asselineau et même d'autres girouettes soutiennent le départ de la France de l'Union européenne tout en resserrant les liens avec la Russie. Le souverainisme patriote sera dès lors un souverainisme pro-russe. Or, nous savons très bien que l'axe russe s'inscrit clairement dans le totalitarisme. La guerre avec Bachar al-Assad et leur soutien à ce régime dictatorial en disent long sur le modèle qu'ils souhaitent mettre en France. L'Union européenne n'est peut-être pas forcément une utopie, mais elle permet de défendre face à l'axe de la terreur. Marine Le Pen n'arrive pas à assumer sa proximité avec le régime du Kremlin. En effet, des tracts la montrent côte à côte avec Vladimir Poutine. Dans le contexte des élections présidentielles, son parti a préféré donner un ordre afin de les jeter. En effet, l'axe clairement autoritaire était réclamé par le Rassemblement national. Dans ce sens, nous savons très bien ce qu'il en ressort de cette déclaration de guerre contre la démocratie et contre les libertés individuelles. De nombreuses personnes se font arrêter en Russie, c'est-à-dire déjà plus de 8000 à ce jour. La situation apparaît comme instable. Le slogan « Liberté, liberté chérie » de la pré-campagne en dit long sur sa volonté. Il s'agit dans les faits de démontrer que cette dernière concerne uniquement les libertés économiques. La position contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire rend sciemment une vision obscurantiste. Et surtout, cela démontre que le caractère poujadiste est lié à son programme. Dans ce sens, il arrive clairement que la transition vers une économie de marché s'inscrit dans le fait que le Front National avait rendu hommage à Margaret Thatcher au nom du souverainisme. Toutefois, il convient de souligner un élément que la Dame de Fer s'est illustrée sans pitié dans le colonialisme en Irlande, un pays toujours divisé en deux au travers de l'Éire et de l'Ulster. Le morcellement de l'Irlande permet de connaître et d'assumer objectivement ce que cela implique de vivre sous occupation. Nous nous souvenons clairement du Bloody Sunday. En effet, l'Irlande n'a pas été réunifiée dans un seul et même État alors qu'il s'agit d'une même nation. Pire, l'Irlandais s'efface progressivement au profit de l'anglais. Nous n'oublierons pas la guerre dans la poudrière balkanique aboutissant au génocide de Srebrenica que certains continuent d'appeler des massacres. La paix est fragile. Pendant ce temps-là, les admirateurs de Poutine sont les mêmes que ceux qui voient dans Donald Trump le messie américain. Ce dernier a souligné admirer la stratégie russe vis-à-vis de l'Ukraine. Il a dans la tête, afin de réaliser son projet Immigration Zéro, alors qu'il est un descendant d'émigrés mais ancré dans le White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire le WASP, s'il reprenait le pouvoir, cela pourrait se traduire par une guerre contre le Mexique au nom de la souveraineté américaine. En ce sens, certains articles de certaines personnalités, comme Jean-Luc Mélenchon, remontent à la surface, comme il a été fait le cas par des sites spécialisés à la chasse de fausses informations. De telle sorte, il convient de souligner que la guerre est terrible. Il ne suffit pas de faire le discours sur le rare mot d'Olivier pour dénoncer les guerres. Ainsi, il apparaît terrible que les agitations russes soient au cœur de l'événement qui nécessite à ce jour une riposte de fond. La bombe Tsar II pouvait tout raser dans un rayon de 500 km. Aujourd'hui, le missile Satan II peut tout raser dans d'un territoire aussi grand que la France. Nous sommes arrivés à cette menace importante. Faut-il un renforcement militaire? Le militarisme et le césarisme inquiètent. En effet, la guerre n'est pas un jeu. Elle tue des innocents et des soldats qui ne se connaissent pas. Il semble nécessaire de voir plus loin que notre devise. La guerre intervient dans un processus sciemment rationnel et objectif qu'elle est présente. La devise que nous utilisons de Rosa Luxembourg intervient dans une dynamique où la soif de conquête et de partage du monde s'enracine sciemment dans la même dynamique et expansionniste des empires. Dans ce discours, elle disait, je cite,
C'est de ces points de vue élevés que nous menons également notre agitation contre la guerre et le militarisme.
Ou encore.
Voici le grief principal du procureur. J'aurais, dans les déclarations incriminées, appelé les soldats, en cas de guerre, à ne pas tirer sur l'ennemi. Il aboutit à ce résultat par une déduction qui lui paraît d'une logique contraignante. Voici le raisonnement. Étant donné que je faisais de l'agitation contre le militarisme, étant donné que je voulais empêcher la guerre, je ne pouvais manifestement choisir d'autres voies. Je ne pouvais envisager d'autres moyens efficaces que cet appel direct aux soldats. Si on vous donne l'ordre de tirer, ne tirez pas. N'est-ce pas, messieurs les juges, une belle conclusion, d'une concision convaincante, d'une logique irrésistible.
Il semble nécessaire de tout faire pour stopper la guerre. Au moment où nous enregistrons, les colonnes biélorusses s'amassent à côté de la frontière. Une déclaration de guerre de cette dictature pro-russe devient une évidence dans les jours qui viennent. Pendant que nous écrivons, les bombardements s'accumulent, s'accentuent. Il apparaît clairement que le conflit va s'enliser. Sur un fond de note triste, nous vous souhaitons une agréable journée.